hein, c'est clair, vous ne voyez pas vraiment nos dettes, mais vous les devinez ce que masse. Comptons en bref, donc aujourd'hui on est plus de 250, donc tout le monde dans cet immeuble. On est présent dans 4 pays, je crois que c'est la slide d'après, donc je vais un peu plus vite, mais on est présent dans 4 pays, France, Allemagne, Italie, Espagne, mais toutes les équipes sont localisées à Paris. Paloma qui est là-bas, par exemple, qui est dans notre équipe Espagne, quelqu'un me posait la question tout à l'heure, donc elle est basée à Paris. On va de temps en temps en Allemagne, en Italie et en Espagne, un peu moins malheureusement en ce moment avec le Covid, mais pour l'instant toutes les équipes sont basées à Paris. On a plus de 100 000 clients, donc nos clients sont des TPE, PME européennes, donc encore une fois, France, Allemagne, Italie, Espagne. On a levé 136 millions d'euros en 4 levées de fonds, donc seed, série A, série B, série C, dont la dernière, la série C, qui était de 104 millions d'euros en début d'année. C'était la plus grosse levée de fonds d'une fintech en France. On a, last but not least, j'allais dire, on est très fiers évidemment de la satisfaction de nos utilisateurs quant aux services qu'on leur propose. Donc, par exemple, sur les App Store, donc iOS et Android, on est entre 4,7 et 4,8 étoiles, vous savez. Et puis le NPS, le Net Promoter Score, c'est plus de 70. Je suppose que vous avez les chiffres en tête, mais dans les banques traditionnelles, le NPS il est proche de zéro. Donc, il y a autant de promoteurs que de détracteurs des services des banques traditionnelles. Nous, on est à 70, ce qui évidemment est très très élevé. On a, pour vous dire, notre objectif interne, c'est d'être au-dessus de 75, donc on a encore un peu de marge de progression. Mais c'est déjà évidemment une super signe de succès, en tout cas auprès de nos utilisateurs, ce qui est évidemment essentiel, surtout quand on croit aussi vite que ce qu'on fait en ce moment. Ça, c'est un petit récapitulatif de la chronologie Compto. Vous voyez en haut les 4 levées de fonds dont je parlais à l'instant. On a eu l'idée avec Steve Anavi, mon associé qui est là-bas en très chargé, en 2016. L'idée de Compto, en fait, elle est arrivée parce que juste avant Compto, on avait monté toujours avec Steve une première entreprise qui s'appelait Smokio, qui avait développé, inventé et breveté la première cigarette électronique intelligente, qui était un outil d'aide au sevrage tabagique. Je vais assez vite parce que c'est pas évidemment l'objet de la matinée, mais juste pour vous dire que quand on a monté cette entreprise entre 2013 et 2016, elle a été rachetée en 2016, on a vu que gérer tout ce qui concernait la banque, la comptabilité, la finance pour une petite entreprise, c'était un peu la croix et la bannière. Et donc, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire, mais bon, on était déjà bien occupé sur notre première entreprise. Et quand elle a été rachetée, du coup, en 2016, on s'est dit, on a envie de remonter un truc ensemble, on a bien aimé bosser ensemble. Quelles sont les idées, quelles sont plutôt les frustrations qu'on a eues en tant qu'entrepreneur? Très souvent, la banque, on revenait en haut de cette liste. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. On a parlé, on a testé cette idée avec une centaine d'entrepreneurs, chefs d'entreprise autour de nous, des petites entreprises, des moyennes, des traditionnelles, des moins traditionnelles, des plus start-up, etc. Et tout le monde disait en effet, les banques traditionnelles, c'est très lourd, très fastidieux, très compliqué, très cher, très peu transparent, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé Compto. Je vais un peu plus vite. 2017, on lance Compto, donc en juillet, le 3 juillet 2017. Et puis ensuite, c'est allé assez vite. Le nombre de clients qui a beaucoup augmenté. Il y a plus de 100 000 aujourd'hui. L'équipe qui a suivi, hein, donc, on est aujourd'hui plus de 250. Et puis, deux points importants qui sont sur la ligne au milieu. On a eu notre agrément d'établissement de paiement en 2018. Donc, avant ça, on était agent d'une société qui s'appelle Trésor, que vous pouvez connaître, qui a été rachetée par Société Générale. Et puis, entre 2018 et 2019, pendant à peu près un an, j'aurais aimé que ce soit un an, pendant à peu près un an, on a développé notre core banking system. Je pense que vous voyez tout ce que c'est, mais au cas où, c'est toute la partie, on va dire, colonne vertébrale, technique et informatique qui permet d'opérer une banque, ou en tout cas un établissement de paiement. C'est-à-dire que c'est tout ce qui gère la comptabilité, les comptes, les livres comptables de chacun des comptes. Donc quand il y a un virement, un prélèvement, un paiement par carte, qui gère tous ces éléments-là. Et c'est à la fois une grande fierté, mais surtout un gros atout d'avoir ça en interne, parce que la plupart des établissements qui se créent, donc soit des fintechs ou même quelquefois des banques traditionnelles, reposent sur des core banking systems externes, et ça évidemment limite beaucoup leur agilité et leur capacité à innover, à créer des nouveaux produits. Et puis, donc je disais, 2019, peut-être dernier point, 2019, on a lancé mi-2019 en Espagne et en Italie, et tout début 2020 en Allemagne. Sur nos clients, peut-être, je le rappelle, je pense que vous l'avez en tête, mais on est spécialisé B2B, donc on ne fait que des comptes professionnels. On n'a que des entreprises, pour faire simple, nos clients, ils ont tous un numéro Siret ou Siret en France, et puis les équivalents dans les autres pays européens. On a d'ailleurs assez souvent des gens qui nous disent « S'il vous plaît, Conto, est-ce que je pourrais ouvrir un compte personnel ? J'adore mon compte pour mon entreprise, etc. » Mais on se tient à notre promesse de se focaliser sur les entreprises. Ce qu'on a vu aussi il y a quelques années, donc, quand on a lancé Conto, c'est qu'il y avait plein d'offres, en tout cas pas mal d'offres pour les particuliers, mais que les PME étaient toujours la dernière roue du carrosse, ou en tout cas les oubliés de la révolution fintech, parce que les grandes entreprises, elles ont les moyens d'avoir des choses customisées, des développements en interne, etc., ou des efforts des grandes banques traditionnelles, parce qu'évidemment, c'est des très gros clients. Les particuliers, ils bénéficient de beaucoup d'innovations, et de même quand on voit les banques en ligne, les Boursorama, Biforbank, Fortuneo, Hello Bank, etc., tout ça, c'est que pour les particuliers. Et les TPE-PME, depuis j'allais dire l'arrivée de la banque en ligne, elles n'avaient pas vraiment eu d'innovation. Et c'est pour ça que Conto est un gros succès depuis 3 ans, c'est parce qu'il n'y avait rien et que, bah, évidemment, on apporte une solution à toutes ces TPE-PME. En termes de taille d'entreprise, la PME comme définition administrative, on va dire, c'est de 1 à 250 salariés. Donc c'est ce qu'on vise. Il n'y a pas de limite haute véritable à 250, mais ce n'est pas des clients qu'on va aller démarcher activement, donc on ne va pas voir les clients du CAC 40 pour qu'ils soient clients de Conto. Si il y a des boîtes qui ont 300-400 personnes qui viennent chez nous, évidemment, on les accepte et on est très content de les avoir, mais ce n'est pas notre cœur de marché aujourd'hui. Un point important, c'est qu'on a une offre spécifique pour les entreprises en création. C'est à peu près 30% de nos clients aujourd'hui, 30% de notre acquisition. Et donc, c'est évidemment un gros canal d'acquisition, mais surtout, ça répond à un vrai besoin de pouvoir créer rapidement, simplement, efficacement une entreprise en France. Pour l'instant, on a une offre que en France, mais on va aussi bientôt sortir des offres similaires dans les autres pays, pour les sociétés en création. Et puis, évidemment, les entreprises existantes, qui représentent par définition à peu près 70% de nos clients. Et les entreprises existantes, tout simplement, elles ont un compte dans une banque traditionnelle, dont elles ne sont pas pleinement satisfaites, et elles viennent chez nous pour avoir un meilleur service, plus fluide, plus rapide, plus transparent. Et puis après, elles se passent le mot, et donc le bouche à oreille fait qu'on continue à grossir. Et puis les KPI dont je vous parlais tout à l'heure. Elles viennent pourquoi ? Elles viennent pour ces trois éléments. Hein. C'est simple, mais en fait, c'est simple à écrire et à faire la slide, mais c'est très dur à faire en réalité quand on a 100 000 clients dans 4 pays et qu'on grossit vite. Mais c'est un produit fluide, et Marc-Antoine pourra en parler juste après. Un service client réactif, je crois que souvent on est d'ailleurs hyper réactif, on peut peut-être ajouter hyper sur la slide, parce que c'est vrai qu'on répond très vite, très bien, 7 jours sur 7, et c'est un énorme changement, une énorme amélioration par rapport à ce que proposent les banques traditionnelles. Et puis on a des prix justes et transparents. C'est important de noter que nous, on n'a rien de gratuit chez nous, tous nos clients sont payants. Le premier forfait est à 9 euros par mois, mais on estime que les professionnels qui veulent un service de qualité, ils sont prêts à payer, et apparemment c'est la réalité, puisque effectivement ils viennent nombreux chez nous. En revanche, ils ne veulent pas de mauvaises surprises, ils ne veulent pas de frais cachés, ils veulent comprendre pourquoi ils payent, et donc c'est exactement ce qu'ils ont chez nous. On a été, voilà, c'est un petit moment où on se félicite nous-mêmes, on a été primer un mal de classements et de que ce soit européen ou français, évidemment, par exemple French Tech 120, vous avez peut-être vu à l'entrée, c'était pas fait exprès, c'était le hasard, mais on est apparemment dans un top LinkedIn recruteur, classement qui je crois va sortir aujourd'hui ou demain, c'est pour ça qu'on a des petits ballons LinkedIn à l'entrée. Donc voilà, évidemment une des startups, ou on pourrait peut-être dire scale-up maintenant, française qui, évidemment, dont on entend pas mal parler. J'ai la question tout à l'heure d'une ou deux personnes parmi vous sur l'impact du Covid. Évidemment, au-delà de tous porter des masques, d'être avec des aménagements sur toute la partie télétravail, etc., de très bien suivre dès qu'il y a quelqu'un qui a des suspicions, Covid, des cas de contact, etc. On fait ça de manière très très consciencieuse. Il n'y a personne de l'équipe People, la ORH, mais sinon je les aurais vraiment remercié et félicité parce qu'ils font un super boulot tous les jours pour ce sujet. Mais peut-être, si on revient au business, ce qu'on a réussi à faire du jour au lendemain, c'est à passer 100% tous en télétravail et avoir une continuité de service totale et parfaite. Donc évidemment, c'est lié à notre activité qui est 100% en ligne et aussi à notre organisation. On est tous toute la journée entre guillemets sur des ordinateurs, mais c'est plus facile pour nous que pour d'autres sociétés de passer du jour au lendemain.